La Mutualité Française Sud, délégation de Vaucluse, vous présente les lives santé sur RTVFM.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live santé en partenariat avec la Mutualité Française Sud. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé de la femme et pour en parler, sont avec moi aujourd'hui le docteur Gauthier, coordinateur du CRC-DC, le comité régional du dépistage des cancers de la région PACA Sud. Bonjour docteur Gauthier.
Bonjour.
Elisabeth Ansberger, présidente de la délégation territoriale Vaucluse pour la Mutualité Française. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Et puis Clémence Pirot, qui est une sage-femme libérale. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour.
Bonjour.
Alors, la santé de la femme, on en parle beaucoup en ce moment et dans certaines enquêtes et sondages, il y aurait une différence entre la prise en charge, en tout cas la santé de la femme et de l'homme. Quelques différences à noter. Dans ces sondages, on va voir tout de suite avec Elisabeth Ansberger qui va nous en parler un peu plus profondément. Et effectivement, y a-t-il une différence entre l'homme et la femme dans sa santé ?
Alors, une différence dans sa santé, certainement, peut-être essentiellement dans la prise en charge et dans la considération de l'accès aux soins. Nous, en tant que Mutualité Française, donc, nous sommes amenés à faire des études, nous sommes amenés à accompagner des établissements, des réseaux sanitaires et sociaux. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la femme, bien souvent, va avoir des difficultés dans son regard par rapport à sa santé. Pourquoi ? Parce que les femmes, de plus en plus, oui, c'est quand même un constat, on est bien obligé de le faire. Il y a de plus en plus de familles monoparentales, donc ce sont souvent les femmes qui ont la charge de la famille. Donc une responsabilité, un regard sur l'emploi. Quand la famille n'est pas monoparentale, c'est pareil aussi, ça dépend de son milieu socio-professionnel. Mais dans certains milieux socio-professionnels, l'emploi de la femme apparaît comme un second salaire, comme un salaire de soutien, donc un emploi qui va être soit à temps partiel, soit avec des ruptures par rapport aux grossesses. Donc à cela, la prise en charge de la famille, une vie qui est quand même pas toujours simple, et des problèmes de nutrition. Enfin, dans sa globalité, il y a des problèmes. On sait que, par exemple, pour les problèmes de l'infarctus, en 10 ans, il y a 3 fois plus d'infarctus chez les femmes de moins de 50 ans, que le diagnostic est différent. Alors là, il y a des communications, donc on commence à être sensibilisé, mais il nous paraissait important d'alerter sur cette santé des femmes, parfois cette précarité et surtout cette importance de la prévention qui peut se faire.
Oui. Juste un petit rappel de ce que c'est que la définition de la santé selon l'OMS. C'est un état de bien-être physique, c'est-à-dire physiologique, mais aussi psychique. Ce n'est pas l'absence de maladie. Quand on parle de santé, on ne parle pas d'absence de maladie, mais bien d'un bien-être physiologique et psychologique. Donc ça fait un peu écho à ce que nous disait Elisabeth, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'accès aux soins, c'est-à-dire dans le soin, mais aussi tout ce qui va être en rapport avec ce dont vous nous avez parlé, c'est-à-dire une charge mentale par rapport peut-être aussi à un travail et l'intendance, si on peut dire, l'intendance du foyer et s'occuper des enfants. Et ça, effectivement, vous avez noté que la charge était de plus en plus importante pour ces femmes et ces mères.
Tout à fait. On s'aperçoit, on parle d'ailleurs, jusqu'à l'an dernier, je pense, on employait le terme de bien-être mental. Maintenant, on parle de santé mentale. Et santé, sans y accorder aucun sens péjoratif, parce que quand on dit santé mentale, on a toujours l'impression que ça peut être déviant. Et qu'est-ce que la déviance, là encore, c'est encore un autre débat. Mais je crois que cette santé mentale est importante, parce qu'effectivement, on a une charge mentale qui est liée par les modes de vie. Tout dépend également si on travaille en province, dans une ville un peu plus grande, une métropole, où on va avoir plus de transports, où on va avoir plus de problèmes, des difficultés pour se rendre à son travail. Donc, et on s'aperçoit que la santé va la santé va de pair avec la santé mentale, parce qu'effectivement, et on peut tous le ressentir, la fatigue, on peut avoir une dégradation de son état général. Et il est important de dédramatiser, donc, d'où l'intérêt de la mutualité française qui se penche sur ce projet de, sur ce problème sociétal, et où on s'intéresse de plus en plus, et où dans notre prévention, on met en place des cafés des femmes dans la région parisienne, on met des centres d'écoute, des lieux de rencontre, parce que c'est pareil, également, on va parler de violences faites aux femmes. Oui, on le sait, mais quelqu'un qui va subir des violences ne va pas arriver du jour au lendemain dans un centre en disant « bonjour ». Il va forcément y avoir une écoute avant. Il va falloir que la parole se libère. Et donc, il est important de dédramatiser et d'aller au plus près pour que justement, il y ait cette notion de confiance, il y ait cette prévention et cette libération de la parole qui souvent est difficile.
D'accord, donc la mutualité française est pleinement actrice vis-à-vis de cette santé des femmes. J'ai vu effectivement des nombreuses missions, comme vous en parliez, des bus, etc. C'est un peu une façon de rencontrer, en tout cas de tendre un peu la main à ces femmes qui ne viendraient pas seules vers ces structures. Donc en fait, vous allez les chercher au plus près pour leur tendre la main et pour essayer justement qu'elles se prennent en charge, en tout cas qu'elles se soignent.
Tout à fait, nous avons un bus, le bus du cœur, qui est dirigé par Madame Claire Mounier-Veillé, une cardiologue réputée de l'hôpital de Lille. Et en fait, ce bus se déplace dans différentes villes. Et ce que l'on constate, on l'a eu nous-mêmes dans la région sur Avignon, et ce que l'on constate pour avoir été présente à ses côtés, c'est que c'est en même temps, comme vous le dites, une pause pour ces femmes. C'est-à-dire, c'est l'occasion de se retrouver sur un lieu où elles ne vont pas être stigmatisées, ou elles ne vont pas avoir à prendre rendez-vous, elles vont se présenter, il y a un café qui est offert. Il y a une mise en condition, entre guillemets, je dirais, qui est faite pour les rassurer, et où on va balayer avec elles un ensemble de problèmes, et on va revoir des choses qui, certes, sont basiques, et que l'on a l'impression d'évoquer au quotidien, mais dans la réalité de la vie, on sait bien qu'on est dépassé par ce que l'on doit faire, donc on va rebalayer, elles vont rebalayer les problèmes de nutrition, elles vont rebalayer le bon usage des médicaments, l'importance d'une activité physique, qui peut être de la marche, qui peut être des choses comme ça. Et on va s'occuper d'elles, on va faire un examen, on va parler contraception. Quelquefois, madame, puisque nous avons la chance, et monsieur, puisque nous avons un médecin, une sage-femme, vont pouvoir évoquer ces problèmes-là. On entend parler de beaucoup de choses, on entend parler de bonnes, de mauvaises, et quelquefois ces femmes sont perdues, parce que c'est pas toujours facile d'avoir accès à une information. Et donc ça va être le moment où, là, on appuie sur pause, on vous parle, on vous entoure, on vous pose des questions, mais incidemment, sans qu'il y ait un questionnaire qui vous paraisse rébarbatif, et on va parler de soi, et je pense que c'est important. Et donc on essaie effectivement à travers, on a pas mal on a un site qui s'appelle Place de la Santé, avec un observatoire de la santé où on peut trouver via internet beaucoup d'informations. On s'intéresse à la santé au travail, donc on essaie en plus de sortir un petit peu de notre rôle, je dirais, qui peut nous être à tort attribué, c'est-à-dire on a vraiment une volonté de montrer que nous sommes dans la société. Voilà. Et que cette société, ça passe par des adhérents, oui, mais par des gens qui ont des difficultés et qu'il faut qu'on soit là à leur côté. Voilà.
Merci. Vous avez d'autres missions. Alors, vous avez parlé du bus, de tout ce qui est santé cardiaque pour certaines femmes. Vous avez d'autres missions sur l'ensemble du territoire du Vaucluse avec l'aide mutualité française. J'ai vu aussi qu'il existait un podcast, et ça peut être intéressant pour ceux et celles qui nous écoutent, un podcast qui est fait pour les femmes en partenariat aussi avec la mutualité française.
Oui, nous essayons d'être multiples et
de tous les canaux de communication possibles.
Voilà, et donc on a déjà, je pense, ce qui est intéressant pour les femmes comme pour les hommes, on a un réseau sanitaire et social qui est accessible à tous, donc sans dépassement d'honoraires, il faut le savoir. On travaille en partenariat avec tout ce qui va être la prévention. Docteur Gauthier en parlera mieux que moi. Donc on essaie vraiment d'être présent. On a des centres optiques, des centres dentaires, on a des EHPAD, on essaie comme ça de tisser, je ne sais pas, mais d'avoir un ancrage territorial, que ce soit dans les villes grandes et moyennes, aussi bien que dans les territoires ruraux. Parce que quand on a la chance d'être dans une ville grande ou moyenne, c'est encore une chose, mais quand en plus on est en secteur rural, là les choses se compliquent. Donc on a effectivement, dans le 0405, la mutualité française a un bus qui sillonne un peu les petits villages, avec soit des prises de rendez-vous, soit des possibilités de faire des diagnostics optiques. Voilà, on essaie d'être au plus près des adhérents, et on essaie de multiplier également nos actions de prévention, c'est-à-dire on participe, par exemple, sur Avignon, on a une course qui s'appelle l'Avignonnaise avec la Ligue contre le cancer. On essaie, lors de ces manifestations, d'y être. On a en place des stands qui permettent aux gens de venir nous voir et nous poser des questions. Et on essaie de mettre le plus de personnes en lien et d'informer au mieux via la prévention, qui reste quand même le meilleur moyen d'être en bonne santé.
Alors, en général, c'est encore... À mon avis, la majeure partie du temps, ça se passe comme ça. On va consulter un médecin quand on est malade, mais on ne va pas consulter un médecin dans la prévention. Et là, je voudrais parler surtout de l'importance du suivi gynécologique, parce qu'en interviewant de nombreuses femmes, il y en a beaucoup qui n'ont aucun suivi gynécologique. Docteur Gauthier, vous qui êtes gynécologue, vous pensez que ça évolue dans ce sens, c'est-à-dire que de plus en plus, les femmes... se font suivre gynécologiquement parlant, pardon.
Je crois que c'est plus compliqué que ça. Je ne suis pas persuadé que la proportion de femmes qui se font suivre régulièrement sur le plan gynécologique ait beaucoup évolué dans ces 15 dernières années pour plusieurs raisons. La première raison, je pense à ces femmes rurales dont vous parliez tout à l'heure, où on cumule un peu les handicaps. Moi, je me suis battu avec des responsables politico-sanitaires qui me parlaient beaucoup de gens qui cumulaient dans les grandes villes, LGBT, toxicomanes. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais dans mon milieu rural, à moi, le cumul d'un handicap, c'est d'être veuve, d'avoir 65 ans, de ne pas avoir le permis et de ne pas pouvoir me bouger. On n'a pas tout à fait la même problématique, mais ça me paraissait, à mon goût, on serait plus important. Donc il y a des difficultés, médicales. Les médecins généralistes sont un petit peu en diminution. Les spécialistes, je suis gynéco, regardez-moi bien parce qu'on n'en verra plus beaucoup. Et ça nous pose aussi à nous des problèmes. Les radiologues, c'est bien, mais bon, c'est plus ce que c'était. Et je crois qu'il faut... retirer un peu l'idée des gens qu'il n'y a que le numerus clausus qui réglait le problème. Le numerus clausus, j'ai connu personnellement en première année de médecine, on n'a pas parlé de numerus clausus, mais on était 1900 en première année, ils en ont pris 180, vous faites le pourcentage, vous voyez ce que ça donne. Bref, donc ça, je crois que c'est un faux problème. Le vrai problème, à mon avis, il est plus qu'il faut rendre aux médecins et aux personnes qui sont en responsabilité de la santé de la population de faire ce pour quoi ils ont été formés, ce qu'on appelle la médecine. quand vous embêtez les gens pendant 30% de leur temps avec de la paperasse, ben, ils n'ont pas le temps de faire de la médecine. Et là où moi, j'aurais pu consulter éventuellement 2 heures de plus, ben, je ne pouvais pas, fallait que je remplisse la paperasserie. Donc ça, c'est très pesant. Et puis après, pour encourager les jeunes à rentrer en médecine, il y a aussi d'autres critères, peu importe. Pour en revenir à votre question, je crois qu'il y a les femmes qui ont reçu, entre guillemets, une éducation de prévention, quel que soit le milieu social, après, il n'y a pas, quand je dis éducation, hein, qui ont pris des habitudes. On est pour témoin, c'est que gynéco, ben, c'était souvent, ça me disait, on me fait mon frottis. C'est elle qui était demandeuse. Par contre, c'est moi qui disais la mammographie. Donc on a chacun ses pôles d'attraction. Le frottis, je rappelle, ça a été inventé dans les années 1950. Donc vous avez pu, mesdames, vous habituer à cette prévention ou à ce dépistage qu'on appelle le frottis. C'est moins vrai pour la mammographie. C'est déjà un peu plus confidentiel, si je puis dire. Le test sur le rectal, n'en parlons pas. Enfin, si, on en parlera. Mais ouais, il y a un certain nombre de préventions qu'on oublie. Après, vous parliez de la santé des femmes. Je crois qu'il faut rappeler, enfin, moi, après, c'est mon rôle de médecin cancérologue quand même aussi, c'est de rappeler quand même que 40% des cancers sont dus à des actions qu'on pourrait éviter. Hein. Et donc, il y a 40% de cancers évitables.
Donc, alors, avec une action préventive, bah, et un suivi, un dépistage.
Même avant. Celle que vous connaissez tous, c'est le tabac. Hein. Le tabac qui est responsable. Alors, tout le monde le sait, le cancer du poumon, de la rein, tout ça, on est au courant. Cancer du sein, c'est déjà moins évident que les femmes sachent le rapport entre tabac et cancer du sein. Malheureusement, oui, il y a un fort accent aussi. Montrer qu'un cancer ou des lésions précancéreuses du col de l'utérus qui ont été plus ou moins traités, sont aussi aggravés par le tabac. Alors je trouve, alors ça c'est un constat, peut-être de mai, j'en sais rien, mais un constat, je regarde, je trouve qu'à la sortie des écoles, il y a un maximum de petites filles qui fument, presque plus que chez les mecs. C'est mes chiffres, hein, mais je sais qu'en PACA, on a augmenté de 250% le cancer du poumon chez la femme. Et le cancer du poumon n'est que la partie émergée de l'iceberg, hein, col, poumon, sein. En fait, le tabac, vous le trouvez quasiment partout, hein, vessie. Donc, qu'on ait infarctus du myocarde, on parle de ça. Donc, ça, c'est évitable. Sauf qu'en France, malheureusement, on n'a pas appris comme les pays du Nord à faire de la prévention et de l'éducation. Quand vous parlez de prévention, on parle en France beaucoup des 5 fruits et légumes. L'activité physique adaptée, c'est relativement neuf. Hein. Même nous, chirurgiens, on disait aux dames, on vous a opéré du sein, vous ne bougez plus le bras. Hein. On n'a plus le droit d'y toucher, ça y est absolument. C'est... Maintenant, on leur fait faire de l'escrime, de l'aviron, du rugby, de la boxe. On n'est plus du tout dans le même paradigme. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on a une évolution des choses qui fait qu'on libère un certain nombre de paramètres. Mais moi, on me dit, vous devez vous occuper des personnes de 50, 70 ans, 75 ans, parce que c'est l'âge du dépistage. Je dis oui, mais si j'apprends pas à la petite fille qui a 14 ans, qui a, on pourra en parler avec sa somme après, la vaccination qu'on doit attaquer quand même un peu plus tôt pour le papillomavirus,
on
va pas attaquer à 70 ans. Si on n'apprend pas à cette petite fille dès le démarrage, qu'il y a effectivement les 5 fruits et légumes, il y a effectivement l'activité physique, mais qu'il faut faire aussi attention au tabac, que le soleil c'est bien gentil, mais on ne s'y met pas à midi parce que les mélanomes, il y a un certain nombre de choses. Et ça en France, je trouve que, quand vous voyez les Australiens, les enfants qui sont en bas âge, qui ont entre 0 et 5 ans, ils ne vont pas à la plage sans être habillés de pied en cap. Avec chapeau, les maillots qui couvrent tout. Nous, non, la maman ou le papa, si il est midi, on va au soleil. Et après, on récolte ce qu'on peut sur la peau de ses enfants. Donc je crois que les femmes, alors après les femmes ont évolué un petit peu, effectivement elles se prennent plus en charge.
Par rapport au suivi gynécologique, est-ce que par exemple dans la région, dans le département Vaucluse, est-ce qu'il y a un désert médical qui est un frein justement à cette consultation de prévention chez la femme?
Pour le suivi gynécologique, je ne pense pas. C'est parce que pour le moment, il y a un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas les filières. Quand vous parlez dépistage, prévention gynécologique, on pense gynéco-médecin. En gros, c'est à peu près tout. Hein. J'essaie de faire comprendre aux gens qu'il existe des dames qu'on appelle des sages-femmes et qui ne font pas n'importe quoi.
On en reparlera tout à l'heure justement du rôle de la sage-femme.
Qui ne font pas la queue pour les bébés. Qu'il y a des centres, qu'on appelle des centres de PMI, qui servent à des choses. Qu'il y a aussi des plannings familiaux. Qu'on peut les faire faire des prélèvements à l'hôpital. Donc il y a quand même des points proches de chez soi qui vous permettent de faire un suivi écologique adéquat et on n'est pas obligé de s'adresser absolument à un médecin. D'autant que un médecin généraliste, alors ça c'est une vieille expérience, je suis responsable d'un dépistage en 90 du col de l'utérus pour la transplantée et d'autant qu'il y avait à peu près 17% de médecins généralistes qui refusaient de faire les prélèvements. Ils ne se sentaient pas compétents, ils ne savaient pas poser un spéculum. Donc ils étaient gênés par pas mal de choses, qui fait qu'il y avait déjà 17% de fait de gens qui ne faisaient pas.
Donc, mais pour reparler de toutes les structures que vous avez nommées, effectivement elles existent, mais est-ce que les femmes sont au courant? C'est-à-dire est-ce que l'information, il y a peut-être un problème justement d'information qui ne circule pas ou qui circule mal pour que les femmes justement aient ce réflexe, mais se dire bah tiens, il n'y a pas effectivement que la gynéco, il y a peut-être la PMI, il y a peut-être d'autres centres, vers qui se tourner?
Alors, moi, je pense que vers qui se tourner, c'est-à-dire vers des radios comme vous, vers la mutualité française, et puis vers l'établissement que je représente, parce qu'on est là aussi à informer les gens. Alors, depuis un certain nombre d'années, la mutualité connaît bien, M. Debout, Jean-Pierre Lermont, vous savez aussi, on a créé ce qu'on appelle un comité de pilotage. Alors, pour deux mois forts qui nous concernent, qui sont le mois de mars et le mois d'octobre, on en reviendra si vous voulez, auquel on a essayé de constituer ce qu'on appelle un comité de pilotage pour ces deux mois phares, qui essaie de regrouper un maximum de personnes pour passer l'information. Alors, c'est tous citoyens, c'est Vivre comme avant, qui sont des associations de femmes, des centres tels que Sainte-Catherine, des centres réputés pour la cancérologie. Donc, on essaie de mailler le territoire avec des gens qui n'ont pas la capacité de répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer du sein triple négatif? Tout le monde ne vous répondra pas. Par contre, de savoir où je peux faire un prélèvement pour avoir un prélèvement pour le dépistage du cancer du col, bah, il faudrait que tout le monde autour des tables puisse dire il y a le planning, et on reprend la liste.
Voilà, et donc la mutualité française a ses propres démarches et ses propres missions, justement, avec tous ces bus, etc., et toutes ces préventions dans des événements un petit peu particuliers pour pouvoir en parler et pour pouvoir dire aux femmes que tout ça existe, pour pouvoir prendre soin de sa santé.
Il y a aussi l'échange, le partage entre nous. Les bus du cœur, j'y étais il y a 2 ans à Avignon, alors que le bus du cœur, a priori, ça ne me concernait pas. J'étais gynéco, j'avais affaire à des affaires de cœur aussi, mais c'était pas tout à fait les mêmes. Mais on se retrouvait facilement dans ce genre de comité de pilotage, de pouvoir se connaître les uns les autres et dire moi je sais pas, demande à la mutualité, moi je sais pas, demande au planning familial. Hein, et on a les adresses pour envoyer les gens.
Est-ce que je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, le suivi gynécologique chez la femme est nécessaire, d'un point de vue déjà préventif. Donc, je rappelle peut-être à toutes celles qui nous écoutent qu'il est important, en tant que femme, de se faire suivre gynécologiquement parlant. Donc, il y a différentes structures qui existent. Peut-être aussi celles qui ont accès qu'à leur médecin généraliste, elles peuvent leur en parler. Il pourra peut-être déjà faire quelque chose, ou alors les envoyer vers une personne qui est recommandée, ou un centre, à une sage-femme, à d'autres missions ou dans des endroits qui sont un peu désertiques au niveau médical. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, docteur Gauthier, ce qui est important, justement, pourquoi il y a une telle importance pour une femme à être suivie au niveau gynécologique?
Alors, pourquoi c'est important? Parce que, alors, là aussi, je pense qu'on est beaucoup autour de la table, déjà ici, mais autour de la table de ce comité dont je parlais tout à l'heure, a prôné l'auto-inspection et l'auto-palpation du sein. L'auto-inspection et l'auto-palpation du sein, j'insiste sur l'auto-inspection, parce que les femmes oublient des fois de les regarder avant de les palper. C'est dommage. C'est sûr qu'il faut avoir une poitrine qui s'y prête. Il est bien évident qu'une tumeur qui fait moins de 1 cm, si vous avez des seins qui font 85A, ça va à peu près. Si vous êtes dans 125S, ça devient plus compliqué. Donc il y a toute une technique. Ensuite, il faut absolument qu'on arrive à chacun à se partager ses informations. Et le suivi gynécologique, la deuxième chose, alors je ne veux pas effrayer, mais excusez-moi, je suis cancéreux aussi. Il y a pour le cancer du col de l'utérus, il y a quand même un pic de fréquence vers 45-50 ans. Mais il y a un deuxième pic de fréquence, c'est 80-82 ans.
Oui, alors ça, on en reparlera donc, tout à l'heure, si vous voulez bien.
Donc, même si dans la politique nationale, il y a un âge d'arrêt, un certain nombre de choses, c'est pas un âge d'arrêt, c'est pas vrai, on en reparlera, mais c'est pas parce qu'on a passé cet âge-là que le risque de cancer n'existe plus, bien au contraire.
Merci. Oui,
je rebondirai sur quelque chose, dans le sens où le suivi gynéco aussi est important. Parce que beaucoup de patientes peuvent ne pas avoir leur contraception adaptée. Si elles n'ont pas la contraception adaptée, ça peut mener à un risque d'infarctus, d'hypercholestérolémie, de choses comme ça. Donc ça peut être important de voir quelqu'un, comme une sage-femme, un médecin généraliste ou autre, pour refaire le point sur sa contraception. Et à côté de ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, la santé mentale. C'est important d'avoir un suivi pour pouvoir voir l'évolution de la vie. Et pouvoir effectivement adapter les choses en fonction, voir une assistante sociale, un psychologue ou autre, en fonction de l'évolution de sa vie. Donc ce suivi gynéco, c'est autrement important avec le risque cancéreux, mais tous les risques qui sont autour aussi.
D'accord. Oui, voilà, je rappelle, et c'est important, effectivement, il y a la prévention de tout ce qui est cancer dans la santé de la femme, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le suivi du bien-être psychique et physiologique, d'autres choses. Vous avez parlé de la contraception, donc c'est important aussi. On a dit pendant longtemps, hein, ça a fait peur d'ailleurs pendant un certain temps, le tabac plus la pilule contraceptive, c'était une bombe à retardement parfois. Donc c'est pour ça qu'il est très important de se faire suivre. Je vous propose une petite pause musicale et puis nous nous retrouvons juste après pour pouvoir continuer sur ce sujet de la santé de la femme. À tout à l'heure. I don't want you feeling time is slipping. I don't want you feeling nothing but love. There'll be money soon enough, you'll see. Sit back and watch it fill up your pocket. That'll be the one thing you don't need to sing. Where you go and what you do, better to be you. Oh, I see you wanna be somebody, buddy. I see you wanna hit the big time. Set free, you wanna see the city lights. Save it for another night. Time is on your side. I see you wanna be somebody, buddy. Alors, nous sommes toujours en direct avec vous dans le live santé en partenariat avec la Mutuelle Santé. Et donc, on continue sur le sujet de la santé de la femme. Et je vais laisser la parole à notre sage-femme ici présente, Clémence Spiraud, qui va nous donner un petit peu plus de renseignements sur le rôle de la sage-femme vis-à-vis de la femme. Il n'y a pas que la femme enceinte, bien évidemment.
Non, effectivement. Donc, nous sommes une profession médicale. Nous accompagnons les femmes de leurs premières règles, voire quand elles sont nourrissons aussi, quand elles naissent. Donc, de leurs premières règles jusqu'à pas d'âge. Nous travaillons dans la physiologie. On travaille en collaboration donc, avec les médecins généralistes, avec les gynécologues, avec toute la sphère qui peut avoir autour, comme je vous disais tout à l'heure, assistante sociale, psychologue, ainsi de suite. Il y a les sages-femmes hospitalières, les sages-femmes libérales. Donc les sages-femmes hospitalières sont là effectivement surtout pour le suivi de grossesse, mais elles font aussi de la gynécologie. Donc on peut aller dans un hôpital pour aller consulter en gynécologie. Nous sommes là donc, comme je vous disais, de l'âge des premières règles, pour les accompagner, pour faire de la prévention effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'alimentation, le sport, ainsi de suite. Nous sommes là lors de leur premier rapport sexuel pour la contraception, le consentement, les infections sexuellement transmissibles. Nous sommes là pour leur grossesse, si elles le souhaitent, si elles ne le souhaitent pas. On fait aussi des IVG médicamenteuses. On les accompagne, donc on accompagne aussi le couple, toute la sphère du couple, dans le domaine de la parentalité. On fait du dépistage, on fait du diagnostic. Nous pouvons faire aussi des échographies. En gros, notre domaine est très large.
Très, très large.
Exactement.
Mais peut-être pour celles aussi qui nous écoutent, c'est-à-dire que dans certains déserts médicaux, ou alors quand le rendez-vous chez la gynécologue est un petit peu long, on peut très bien se tourner aussi vers une sage-femme dans son suivi gynécologique. Est-ce que vous pouvez faire tous les suivis gynécologiques ou le suivi gynécologique d'une femme qui est en bonne santé ?
Le suivi gynécologique d'une femme en bonne santé.
Ah, ça veut
entre
dire
guillemets.
Ça veut dire quoi ?
C'est le problème de la sage-femme. Oui. C'est que du coup, nous sommes une profession médicale, mais nous ne sommes pas des médecins. De ce fait-là, normalement, on s'occupe de la physiologie. Après, effectivement, dans entre guillemets, ce qu'on peut appeler le désert aujourd'hui gynécologique, ce qu'on fait, c'est que quand on a le moindre souci, on travaille en collaboration avec les gynécologues de l'hôpital de Carpentras et on leur demande si on peut continuer à suivre cette patiente qui a telle pathologie, ainsi de suite. On peut suivre une patiente avec des pathologies tant qu'elles sont gérées, tant qu'elles sont stables aussi. Dès lors que ça dépasse notre domaine de compétence, tout simplement, on l'envoie à un gynécologue.
D'accord. Bon, je reprécise quand même que vous pouvez, alors ce qu'on appelle le suivi gynécologique, pour celles qui nous écoutent, pour bien vraiment détailler, ça veut dire une palpation, c'est-à-dire un examen clinique. C'est aussi un frottis, réalisation d'un frottis et la vaccination aussi contre le papillomavirus.
Tout dépend des âges.
D'accord.
Tout dépend des âges. Dès lors qu'elles sont adolescentes, on leur parle du Gardasil, donc le vaccin contre le papillomavirus. On en discute avec la maman. Et puis, dès que cela est possible de le faire, on le fait, dès qu'elles sont en accord. Puis, le suivi gynéco, après, intervient au fur et à mesure. À l'âge de 25 ans, on commence les frottis. On fait la palpation mammaire dès que cela est possible. C'est important aussi de dire quand même, parce que beaucoup de patientes n'osent pas venir, qu'on peut faire des consultations en anonymat aussi, si leurs parents ne sont pas d'accord pour qu'elles viennent voir une sage-femme. Il y a aussi le planning familial qui peut s'en occuper. Qu'à côté de ça, dès qu'elles viennent pour la première fois, voire la seconde, on discute et on ne fait pas d'examen, on ne les met pas toutes nues devant nous pour un examen gynéco. Et que petit à petit, l'examen gynéco aussi se fait en fonction des problèmes qu'elles ont, de ce qu'elles rencontrent. Mais voilà, on ne leur saute pas dessus.
Oui, tout ça a changé. Maintenant, on est beaucoup plus vigilant par rapport à tout ça. Et
il y a beaucoup plus de respect, je pense, sans vouloir dire que... Mais on fait les choses petit à petit. D'abord l'examen mammaire, puis l'examen d'en bas, et pas tout entier. Voilà. Si elles ne veulent pas ce jour-là, on peut se revoir quelques mois plus tard, le temps qu'elles soient prêtes, hein, ainsi de suite.
D'accord. Docteur Gauthier, on va continuer à parler avec vous de tout ce qui est dépistage des cancers. Donc, il n'y a pas que le cancer du col de l'utérus, il y a aussi le cancer du sein. Je parle vraiment de la femme, hein, parce que c'est le sujet du jour. Cancer du colorectal aussi, bien évidemment. Et vous allez nous expliquer un petit peu votre comité de dépistage. Comment ça se passe ?
Alors, nous étions des structures départementales, nous sommes passés à des structures régionales, d'où ce nom compliqué de CRCDC, mais ça offre l'avantage qu'en France, chaque région a un CRCDC. Ce CRCDC, il a comme mission, d'une part, de s'occuper des professionnels et de la population cible. On forme, alors la dernière formation de professionnels, ça a été les pharmaciens pour remettre le test de dépistage du cancer colorectal, et c'est nous qui étions en responsabilité pour former ces pharmaciens. Donc déjà, le test du dépistage du cancer du côlon, vous n'êtes plus obligé d'aller chez votre médecin, faire la queue, d'attendre qu'il dispose un petit peu. Vous pouvez aller chez le pharmacien et retirer votre kit sans problème. Donc on a ouvert comme ça. Donc formation des professionnels et chose pour moi importante, essayer de contrôler les bonnes pratiques de ces messieurs-dames en leur expliquant que leur appareil de mammographie n'est pas de bonne qualité, qu'il faut qu'ils arrêtent de travailler avec ça, qu'il est même interdit. Il y a un certain nombre de choses qui est notre responsabilité. Ensuite, notre responsabilité est bien sûr vis-à-vis de la population cible. Le cancer du sein, le cancer colorectal, c'est pour les personnes de 50 à 74 ans. À l'heure actuelle, je suis personnellement sur une étude expérimentale qui s'appelle MyPeps, où je m'intéresse aux femmes de 40 à 70. Donc j'ai diminué de 10 ans le dépistage du cancer du sein, parce que je pense que ça évoluera plus ou moins. Le dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est les femmes de 25 à 65 ans. Et là aussi, il va peut-être falloir changer un peu les barres, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a un deuxième pic de fréquence du cancer du col vers 80 ans, et il faudra peut-être quand même continuer à dépister. D'autant qu'il existe de plus en plus, même si on nous interdit de prendre l'avion maintenant, parce que pour accoucher l'index carbone, c'est pas bon, il y a quand même, il n'en est pas moins vrai, des gens qui voyagent, et le papillomavirus qui sévit en Amérique du Sud n'est pas le papillomavirus qu'on a en France. En tout cas, dans les pays européens, c'est plutôt 51 et 56. Ce qui fait que quand vous êtes vacciné ou que vous avez été infecté par un virus, c'est-à-dire européen du style 16, 18, 31, vous n'êtes pas pour autant protégé du 56 qu'il y a en Amérique du Sud. Donc si vous êtes soigné pour le 16-18, malheureusement, vous n'avez pas de protection du 56. Donc l'évolution des mœurs sexuelle, l'évolution de la géographie et du affaissement des gens, c'est qu'on va être obligé de moduler un peu les choses. Donc on a cette mission, et on a la mission, pour moi, qui est peut-être une des plus importantes, c'est que je dois m'assurer que 100% des femmes, des hommes qui ont un test positif, que ce soit pour le dépistage du cancer du côlon, pour le dépistage du sein ou du col de l'utérus, sont pris en charge, entrent dans une filière de soins. Alors, ça paraît ça paraît bizarre, sauf que c'est un petit peu obligation. Pour moi, c'est important parce que si je fais 100% de dépistage, je vous donnerai un exemple après, je fais 100% de dépistage, mais j'ai 0% de suivi, ben, j'ai dit, tiens, il y a 80% de femmes qui ont fait une mammographie. Et alors ? Et alors ? C'est pas comme ça que je vais faire baisser ni la mortalité, ni la morbidité. Mortalité, bon, on comprend tous, morbidité, c'est simplement dire à une dame, ben non, comme on a pris votre traitement, votre cancer du sein très tôt, vous n'avez pas de chimiothérapie à faire. Pas de chimiothérapie, ça a quand même une valeur, surtout peut-être pour une femme, un petit peu importante, vous voyez, à quoi je pense par derrière. Et ce 100% de suivi, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, parce qu'il n'y a que comme ça que vous estimez que vous êtes en capacité de savoir ce que vous faites. Et puis ensuite, on a une grosse mission, c'est la mission d'aller vers. Alors, aller vers toute population. Moi, en ce moment, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est effectivement les femmes en secteur rural. Disons, on va dire tous les patients en secteur rural, mais le test hémoculaire, enfin le FIT, le test colorectal, vous faites tout seul chez vous, donc vous n'avez pas besoin de nous. Par contre, une mammographie, il faut bien qu'il y ait un radiologue pour le faire. Pour le département de Vaucluse, il y avait 27 centres de radiologie en 2002, agréés. Ils sont 10. Donc vous avez perdu plus de la moitié, précisément les deux tiers. Donc il se pose un problème, et je pense à la région de Apt. Le dernier cabinet qui était Apt vient de fermer. Donc maintenant, Apt, il n'y a pas. Valréas, il n'y a pas. Il faut se bouger, hein. Et donc, je reprends ce que je disais, si vous avez 65 ans, pas de permis et célibataire, ou veuve, ben vous ne faites pas votre dépistage, votre suivi est arrêté. Donc, on est à cette station de l'Allée Verte. Alors, cette station de l'Allée Verte est un peu compliquée, parce que, à l'heure actuelle, donc le 3 juillet 2023, tout ce que je peux faire personnellement, c'est effectivement d'accompagner la mutualité française, d'accompagner des bus France Service, et puis de passer un message, des flyers. Enfin bon, la dame qui habite, je reprends mon problème de VAP, elle me dit vous êtes gentil, ou saut. Moi, c'est mammographie, je veux votre dépliant, je connais, j'ai reçu, j'ai eu, je m'appelle. Elle aimerait qu'on apporte la mammographie chez elle. Là, c'est plus compliqué parce qu'il faut acheter un camion dans lequel vous avez un appareil de radiologie. Moi, j'avais pensé à mettre une sage-femme dans le cabinet dans ce camion qui me permettrait, un, de faire l'examen clinique des seins, qui précède la mammographie en principe, deux, qui m'aurait permis de faire des dépistages du cancer du col et éventuellement qu'elle briche un peu sur le dépistage du colorectal. J'étais content, j'avais un camion, je faisais tout. Mais ce camion vaut cher et il n'y a pas grand monde qui veut le payer. Et puis après, il y a des critères un petit peu de qualité aussi à voir. Mais c'est peut-être une solution qui existe en Normandie, qui existe dans certaines régions. Il faudra voir si on peut arriver à le faire. Donc ça, c'est les actions de l'Allée Verte. Il y a une catégorie de personnes dont on n'a pas trop parlé, mais qui me touche particulièrement, c'est les handicapés. Oui, les handicapés, on a réussi, nous, en région PACA, à mettre sur nos invitations de dépistage un QR code qui va, une fois que vous l'avez saisi, vous passer le message de dépistage en langage des signes. En parler. Alors, les non-voyants, il faut quand même leur mettre, leur citer sur le QR code pour avoir quelque chose. Je pense qu'on devrait pouvoir faire le braille. Et j'en reviens à notre coopération. C'est que ce QR code, on ne l'a pas fait comme ça tout seul chez nous. C'est le CODES du département du Var qui nous a aidés. Donc si on ne travaille pas ensemble, on n'y arrivera pas. Hein. Et autant on a besoin également et tout à fait beaucoup des sages-femmes, on a besoin aussi des mutualités, des CODES, des plannings familiaux, de tout le monde. Si tout le monde met un peu à ma patte, on va arriver. Pour en revenir au gynéco et au suivi de ces dames, alors j'appelle quand même...
Des sages-femmes.
Oui. Non, mais des dames.
Des dames, évidemment.
Lorsque vous faites un frottis qui maintenant est réservé aux femmes de 25 à 30 ans, on fait un frottis. De 30 à 65 ans, on fait un typage HPV, on recherche directement le virus. Quand on faisait un frottis, on avait 4% de positifs. 4% de positifs, c'est relativement facile à gérer, parce que vous êtes 1 400 000 sur la région, concernée par ce dépistage. Si je fais du typage, c'est-à-dire que je vais chercher le virus, j'ai 10% de positif. Si je veux assurer mon suivi dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai plus le même nombre de patients à suivre. Qu'est-ce qui se passe? Je simplifie très vite, madame la sage-femme, j'espère, ne me contrôlera pas, mais si on fait très rapidement, frottis positif, test HPV positif égale colposcopie. Qui est-ce qui fait la colposcopie? Certains gynécos, c'est même pas tous les gynécos. Donc là, je me retrouve avec un goulet d'étranglement qu'il va falloir qu'on règle d'une façon ou d'une autre. Alors, on m'a dit, pour augmenter la participation sur le col, pour le dépistage du col de l'utérus, proposons l'auto-prélèvement. Ça existe, hein. Ça s'est déjà fait. Il y a M. Piana qui a laissé ça, qui avait fait des expériences d'abord avec le frottis dans les quartiers nord, où il y avait en gros 4% de participation, donc on va dire quasiment rien. et puis lâcher son auto-prélèvement du côté de Marignane, un petit peu échancré, un petit village de l'Estac, tout ça. Et il était arrivé à monter à 20% de participation de femmes qui ont fait leur test toutes seules pour la recherche du virus. Lorsque le test était positif, il fallait donc faire la colposcopie, il fallait faire quelque chose pour le suivi de cette dame. Et là, cette fois-ci, taux de participation, zéro. Donc, de savoir qu'elle avait un aspect positif, bah, ça m'intéresse, c'est bien. Et je vois, et j'en fais quoi, ça ne me sert pas à grand-chose. Et je ne peux pas la guérir, je ne peux pas la sauver. Alors, tout ça, il y a un certain nombre de démarches à faire qui sont assez compliquées. Il faut expliquer aux médecins généralistes que je pense maintenant que les Françaises et les Français ont compris que le cancer, ce n'est pas une maladie honteuse. Même pour le col. Et que si on n'en parle pas, on ne va jamais y arriver. Et que des journalistes, je ne vous regarde pas spécialement, nous disent qu'il est mort des suites d'une maladie, ça suffit, c'est fini. Mettre un point sur lui, c'est quand même pas compliqué. Alors je dis, le cancer, ce n'est pas une maladie honteuse. Même si on dit quand même que le cancer du col de l'utérus, c'est dû à un papilloma qu'on contacte par voie sexuelle. Il n'en avait pas moins vrai qu'entre le frottis, le dépistage, et la vaccination, l'Australie est en train de faire disparaître complètement le cancer du col de son territoire. Donc c'est pas difficile à faire. Ensuite, je suis allé une année sur le parc de la faculté d'Avignon, où les garçons... Alors déjà, quand vous tenez un stand sur le cancer, en général, les gens partent assez loin parce qu'on n'attire pas trop la clientèle. Là, les garçons étaient encore beaucoup plus loin parce que c'est l'histoire de nana, ça ne nous concerne pas, on passe pas là. Alors j'en ai appelé un quand même, je lui ai dit, mais vous savez ce que c'est que le papillomavirus ? Pas vraiment. Si vous savez quand même que vous pouvez être concerné par le papillomavirus. 30% des cancers du larynx sont dus au papillomavirus. Un peu moins. 20% des cancers rectaux ou du canal anal sont dus au papillomavirus. Alors du coup, les raccourcis de beaucoup, c'est une maladie d'homosexuel. Et non, je suis désolé, il y a plus de femmes atteintes de cancer du rectum dû au papillomavirus que d'hommes. Donc c'est bien un problème de comportement sexuel. C'est pas un comportement réservé à une catégorie de population qu'on va mettre de côté. Je veux dire. Donc ça, il faut bien faire comprendre ça à tout le monde, qu'on est tous concernés par le problème. Le cancer du poumon dont on parle aussi, je pense que ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Est-ce qu'on essaie de proposer un dépistage du cancer du poumon à des gens un petit peu sélectionnés? Mais voilà.
Alors pour en revenir justement au HPV, c'est-à-dire au papillomavirus, qui est responsable dans 90% des cancers du col de l'utérus, il y a une campagne qui va se faire dans les collèges dès la rentrée, dans les classes de 5e, où la vaccination va être proposée, garçons comme filles, pendant. Vraiment ciblée. Hein. C'est collégien de 5e.
Je trouve un petit peu dommage que le ministère de l'Éducation nationale n'ait pas vraiment écouté ni la Haute Autorité de Santé, ni les fabricants du Gardasil dont parlait Madame. On a commencé à vacciner à 14 ans. Alors, un petit peu après la 5e, on ne va pas chipoter. Il y en a qui sont en avance, d'autres en retard. Bref. 14 ans, ça n'a pas marché en France. C'était une proposition. 14 ans, en plus, c'était proposé qu'aux filles. Là, c'est sûr, c'était sectaire tout de suite. Ça n'a pas marché. Pourquoi ? 14 ans, cette demoiselle, elle dépend plus du pédiatre. Elle est trop vieille. Le médecin généraliste, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est un généraliste, ça ne va nulle part. Parce qu'en France, on va chez le médecin, si on est malade. Et puis, quand t'as l'horrible bonhomme de neige qu'on appelle le gynéco, l'intérêt est nul. Donc, c'est 14 ans, on va pas chez un gynéco. Donc, on s'est aperçu qu'à 14 ans, ça tombait très mal, cette vaccination. Et alors, actuellement, qu'est-ce qu'on dit? On dit 9 ans. Dernier rapport des técoques, et en même temps, vous faites le Gardasil. Comme ça, la demoiselle, et les garçons, parce que maintenant on peut pisser les garçons aussi, vous faites ça à un âge où ils ont déjà une vaccination. Donc ça bouscule rien, on sait que la stabilité des anticorps tient. Donc pourquoi 74? Moi, je suis assez, je trouve ça un peu tard. L'éducation sexuelle en cinquième, c'est pas facile. Hein, parce qu'il y a ceux qui sont là, je reprends, moi j'en ai fait. Il y a ceux qui sont en avance, ils savent déjà tout. Enfin, au moins, ils pensent que. Il y a ceux qui sont encore avec leur petite voiture ou la demoiselle avec cette poupée dans le fond. Il y a celles qui s'en foutent. Enfin, c'est un âge qui est assez difficile. En fait, moi, on avait vu avec un sexologue genevois que l'idéal, ça aurait été de faire trois fois. Un premier cours vers le CE2, CM2, quand ils sont tout jeunes, un peu frémolus. Faire un petit rappel vers la troisième, puis un dernier rappel en terminale. De toute façon, à essayer de bien provoquer la réflexion sur la contraception, le comportement sexuel.
Alors, et surtout les IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles, dont le papillomavirus, et vous avez bien fait de le rappeler, ça ne concerne pas que les filles, les garçons sont concernés aussi par ce virus, comme vous l'avez dit, qui peut engendrer des cancers du larynx. Et donc, cette campagne de vaccination qui va commencer à la rentrée, bon, cinquième, ils ont quel âge? 12 ans, on va dire.
Ouais.
12 ans. 12 ans. Alors, bien sûr, je rassure tout le monde, il y a un accord parental, évidemment. On ne va pas les vacciner de force. Mais pour la prévention, on peut se dire quand même qu'au collège, au niveau sexualité, ça commence là. Donc, c'est peut-être quand même le bon moment. Même si c'est difficile.
Il n'y a jamais de mauvais moment.
Non. Hein,
c'est pas le souci. On peut même vacciner des gens qui ont déjà eu des rapports sexuels l'année qui suit, bon, peu importe. Donc j'allais dire, il n'y a pas de mauvais moment. L'idéal dont on parle, après, il faut aussi qu'il y ait un idéal, puis après, on s'accommode de ce qu'on peut. Là encore, je rappelle quand même que la vaccination, vous n'êtes pas obligé d'aller chez le médecin. La sage-femme peut le faire. À toutes ses capacités. Le pharmacien peut le faire. Donc, il y a quand même un certain nombre de points où on peut aller se faire vacciner. Et je trouve que c'est quand même assez dommage que cette vaccination qui protège très bien de toutes ces maladies dues au papillomavirus ne soit pas plus faite qu'à 25-30% de la population concernée. C'est vraiment dommage.
Oui, c'est quand même une belle opportunité. En tout cas, la campagne de vaccination, on va voir ce que ça va donner chez les cinquièmes. Et je voulais aussi rappeler que les rapports protégés, c'est-à-dire avec préservatif, ne protègent pas entièrement de la transmission du virus du papilloma.
Alors, tout à fait, parce que les papillomas, il y en a beaucoup de sources, il y en a à peu près 210. Différents papillomas, dont un qui donne des verrues plantaires, n'ayez pas peur, ça va pas plus loin, ça donne des verrues plantaires. Sauf que, il y a des virus qui vous parliez de santé morale, il y a des gens qui vont être atteints par un papilloma, le 9 par exemple, qui donne ce qu'on appelle des condylomes. Dans le temps, ça s'appelait des crêtes de coq chez les militaires. Hein. Ben, ça, c'est vraiment très ennuyeux parce que vous avez ou la vulve ou le pénis qui est couvert de ces espèces d'excroissances verruqueuses qui pourrissent la vie quand même des gens, qui pourrissent la vie moralement. Ils ne risquent pas leur vie là-dessus. Mais c'est problématique au jour le jour.
Donc aujourd'hui, on a fait quand même des belles avancées avec cette vaccination qui évite quand même de nombreuses choses. Et on ne parle pas que de cancer du col de l'utérus, mais tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire c'est des IST, ça touche aussi les garçons, ça touche les filles. Le préservatif ne protège pas à 100% des cas.
Si vous me permettez, je vais poser une question à Sacha. Moi, j'avoue franchement, je suis assez défenseur d'un truc que pas grand monde connaît, qui est le préservatif féminin. Parce que le préservatif féminin, il est composé d'un préservatif qui, comme le préservatif masculin, couvre le sexe du monsieur. Mais il y a une bavette en avant qui protège ce qu'on appelle le mont Vénus et une petite bavette postérieure qui protège l'anus. C'est-à-dire qu'il couvre mieux la vulve de la dame. Parce que, alors je vais vous compliquer, je ferai un peu la vie. Cette dame qui vient, je lui fais un prélèvement parce qu'elle a passé 30 ans, et à un HPV 18. 18, attention, c'est un carcinogène, vite, on va aller voir son col. Sauf que c'est elle qui a fait l'auto-prélèvement. Alors l'auto-prélèvement, elle ne l'a pas fait au niveau du col, elle l'a fait au niveau du vagin, déjà. Et puis, si je mets mon spéculum, que je fais mon petit test de Schiller, machin, bon, bref, le col, il est nickel. il n'y a pas une trace de lésion au niveau de son col. Ben non, la lésion elle est dans le vagin. Elle est complètement en bas, quasiment à l'entrée du vagin. Elle est éventuellement sur la vulve. Donc ce prolatif féminin, il a un peu l'avantage de protéger le vagin et le col, mais de protéger en partie la vulve. Un prolatif masculin, si le monsieur est couvert de condylome sur le pubis,
ça ne protège pas.
Bah, ben. Alors après, il faut quand même maintenir le préservatif, ça je suis d'accord avec vous, mais pour d'autres JSC.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Si, par contre, je pense que le Gardasil, sans vouloir...
Donc c'est le vaccin, nom du vaccin.
Le vaccin, je pense que ce ne sont pas les adolescents qu'il faut convaincre, mais surtout les parents. Voilà, ils ont beaucoup de difficultés, je pense. Quand j'ai des adolescentes devant moi, ce sont les parents que je dois convaincre. Je dois leur montrer ce qui se passe en Australie, leur dire qu'il y a quasiment une innocuité, voilà, pour qu'ils puissent être convaincus et encore.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler les modalités de ce vaccin? Il se fait en plusieurs injections. Hein.
Oui. Selon l'âge, il y a 2 doses avant 14 ans et 3 doses à partir de 14 ans.
Et on peut se faire vacciner après avoir eu les premières relations sexuelles.
Dans la première année.
Et ce que je voulais aussi peut-être préciser, c'est que le cancer du col de l'utérus dû au papillomavirus, il peut se déclencher bien après des rapports sexuels.
Alors, on considère que c'est le premier rapport sexuel qui coûte. 80% de la population féminine sera infectée par le papillomavirus. Pour que vous développiez un cancer du col de l'utérus, il faut, un, que vous gardiez au niveau du col de l'utérus ce qu'on appelle une charge virale, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment pas mal de virus, et que la clearance, la fait de se nettoyer de ces virus, soit très faible. Ce qui fait qu'en règle générale, on se rappelle que 20% des demoiselles de 14 ans ont déjà eu des rapports sexuels. Premier rapport sexuel. Le temps que le papillomavirus fasse son effet au niveau du col utérus, on trouve les lésions précancéreuses vers 25-30 ans. Le cancer vers 50, vous voyez, ça prend du temps. Donc si on parle de l'infection au cancer, ça peut prendre à peu près 30 ans.
Oui, c'est ça. Donc c'est, vous avez raison de le préciser. C'est-à-dire qu'il peut rester, alors ce qu'on appelle en sommeil, ce n'est pas vraiment en sommeil. C'est-à-dire qu'il va commencer à se charger, c'est-à-dire augmenter sa charge virale pour peut-être donner un cancer, mais beaucoup, beaucoup plus tard.
Tout à fait.
Il n'y a pas d'effet immédiat. Donc je rappelle vraiment aux adolescents qui nous écoutent c'est peut-être pour...
Et alors, aux adolescents, mais... vous avez raison, mais alors, moi, je reprends le début de vos questions, même, et aux plus anciennes, parce que le suivi gynécologique, c'est pas parce que j'ai 50 ans, que j'ai le même mari depuis 15 ans, que j'ai accouché, que le dépistage du col, ça sert à rien. Non, madame, ça se trouve, vous avez été infecté avant des avances, monsieur. Donc, faites attention. Et je vous ai dit, il y a un deuxième pic de 60 à 80. Ces dames de 80 ans, elles n'ont pas découvert le rapport sexuel à 60. Hein. Donc, attention, le suivi gynécologique ne s'arrête pas une fois que vous avez été maman et que vous avez gardé votre mari pendant X années. Hein, y a pas...
il faut surtout dédramatiser, je pense, la consultation gynécologique. Comme je disais tout à l'heure, on ne se retrouve pas nu d'un coup et on se fait trifouiller de partout, en fait. Les choses se font avec accord, avec respect. On fait les choses tranquillement et surtout, on discute aussi. Donc, c'est important qu'elles reprennent confiance, qu'elles ne se sentent pas coupables de fumer, qu'elles ne se sentent pas coupables. On peut les accompagner dans l'arrêt du tabac, dans plein d'autres choses. Donc, elles peuvent discuter avec nous sans se sentir jugées, surtout.
Je crois qu'on a déjà bien fait le tour sur les IST, le papillomavirus, l'importance de faire vacciner, l'importance du suivi gynécologique à n'importe quel âge.
Oui, personnellement, si je devais rajouter quelque chose, je dirais que je trouve que nos discussions, je l'espère, ont intéressé les auditeurs. Et on voit l'importance de la communication, on voit l'importance du partage d'informations, on voit l'importance de la dédramatisation, on voit l'importance de l'incitation, et c'est ce qu'on essaie de faire avec de la prévention. Et cette importance où nommer les choses... Nommer, ce n'est pas parce qu'on nomme que cela arrive. Et par contre, avoir le mot juste, c'est quand même ce qui va permettre d'avancer, quoi. Mais je crois que c'est ce qui est ressorti de nos discussions, parce que parfois c'est un peu aseptisé. Vous disiez effectivement une longue maladie, une longue maladie, c'est tout et c'est rien, quoi. Qu'est-ce que c'est, ça peut... Alors qu'un cancer, une leucémie, et cette information également des petits garçons qui, pour moi, je trouve à la rentrée quelque chose de vraiment... voilà, faire prendre conscience que c'est homme et femme, quoi. Et que homme et femme, on est concernés. Et que de toute façon, pour un homme, la santé de sa femme l'intéresse. Pour une femme, la santé de son homme aussi. Et nommer, dire, et nos actions de prévention, ce qu'on essaie de faire, c'est ça, c'est apporter une information, donner effectivement, tant qu'on le peut, des points de chute, des adresses. Et c'est tout ce que l'on peut faire.
Merci. Je complète simplement. Le dépistage, ça ne donne pas le cancer.
C'est ça.
Non, parce qu'on c'est un argument qu'on entend quand même de temps en temps. Et je rappelle simplement, pour la mammographie, il y a 6, ça dépend des années, entre 6 et 7 pour 1000 femmes qui ont un cancer. Ça veut dire que vous avez 993 chances de ne rien avoir. Donc, faut pas avoir peur. Alors là, j'ai pris le plus difficile, le sein, parce que le sein, il n'y a pas de discussion, c'est il y a ou il n'y a pas un cancer. Hein. Bon. Je vois, c'est difficile, mais enfin bon, peu importe. Le cancer du côlon ou le cancer du col de l'utérus, en plus, ça a un énorme avantage. C'est que ça dépiste des lésions très cancéreuses. Vous vous faites dépister, on vous dit là, vous avez quelque chose, ça va devenir un cancer. On retire, on n'en parle plus. Le polype du côlon, parce que pour moi, c'est un peu plus frappant. On fait la coloscopie, on retire le polype et on n'aura pas de cancer. Si j'attends le cancer, et là, c'est ma morbidité, qu'est-ce que je risque d'avoir? Non seulement un bout d'intestin en moins, bon, ça, je m'en fiche un peu, c'est de la tuyauterie. C'est de la tuyauterie, sauf si soudainement, mon anus est avec une poche sur le côté, qu'on appelle une stomie, et là, je vous assure, c'est la vie de la personne, elle est complètement bouleversée. C'est plus du tout, et là c'est du social, c'est du psychologique, c'est du social, c'est du marital, enfin c'est une complication de tous les jours. Je vais me baigner, je trouve une astuce pour mettre un bouchon. Le dépistage du cancer du col, c'est la même chose. Vous avez une lésion, on appelle ça des CIN1, CIN2, peu importe. Je soigne ce CIN1, CIN2, je n'ai pas de cancer, je peux faire un enfant après. Si vous attendez le cancer, eh ben, il n'y a plus d'utérus, hein. Il n'y a plus d'utérus, il n'y a plus d'ovaire, il y a plus. Je peux vous dire que l'intervention pour un cancer du col de l'utérus, j'en ai fait quelques-unes, c'est une intervention lourde et importante.
Bon, on terminera par dire que, évidemment, la prévention, elle nous est offerte dans bien des cas, donc profitons-en avant d'être malade. La prévention, c'est quand je vais bien et c'est pour éviter d'être malade. Et c'est le plus important dans la santé. Et on parlait aussi en début d'émission de la santé et du bien-être psychologique, autre que le bien-être physiologique. Donc la prévention, mesdames, allez-y, allez-y, allez-y. Comme dit le docteur Gauthier, ça ne coûte rien, ça ne fait pas mal. Au mieux, il n'y a rien. Au pire, on l'utilise,
on soigne.
On agit, on soigne. Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci, docteur Gauthier.
Je vous en prie.
Merci. Notre sage-femme qui était avec nous sur le plateau. Merci Elisabeth Ansberger de la Mutualité française. Avec plaisir. À très bientôt dans un nouveau live santé. Merci à tous. Au revoir.